BFM Bourse, on refait la séance.
Cette séance de jeudi à la Bourse de Paris, on va la commenter avec Renaud Ramed, gérant chez Promépar Asset Management. Bonsoir.
Bonsoir Stéphane.
Merci d'être avec nous. Pierre-Louis Vermeer est également avec nous, gérant chez Swiss Life Banque Privée. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Et toujours avec nous Romain Daubry, marché dérivé et info d'expert chez Bourse Direct. La valeur qui a le plus progressé sur le CAC aujourd'hui, c'est Edenred. Le groupe a publié un chiffre d'affaires trimestriel et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. 4,9% de hausse à la clôture, 46,94 €. Renaud, c'est une valeur que vous aimez bien.
Oui, enfin... Alors on était resté à l'écart du dossier, on s'est mis à neutre là. Donc c'est une publication qui nous fait un peu réapprécier le dossier, mais on était sorti sur différentes régions. C'est un dossier qu'on avait bien joué, qui nous écharpe avec un très bon parcours. Et puis les litiges en cours, les aspects un petit peu ESG nous avaient fait un petit peu alerter. Là, enfin sur les fondamentaux, c'est plutôt une bonne publication avec une capacité à réaccélérer trimestre par trimestre, avec notamment deux divisions sur trois qui dépassent les attentes des consensus. Évidemment la hausse des taux favorisent vraiment leur revenu de placement financier, donc ça c'est toujours un point fort du dossier. Mais surtout, enfin, la société là s'est montrée convaincante, elle allège un petit peu la chape de plomb qu'il y avait sur le dossier en s'étant montrée rassurante sur le litige italien qui pourrait ne pas être si coûteux que ça et qui ne pénalise pas leur business, et ainsi que également sur la revue du marché français des frais qui pourraient ne pas être capés. Donc un peu de visibilité qu'ils dégagent du dossier, un dossier qui a énormément d'irrité. Donc il y a des aspects valorisation, forte génération de cash, voilà, mais on était en dehors. Aujourd'hui on se remet une pondération un peu neutre sur Edenred, mais une publication qui est plutôt applaudie parce que meilleure, et en tout cas avec des éléments plus positifs que par le passé.
Donc vous êtes neutre sur cette valeur chez Promépar Asset Management. Pierre-Louis Vermeer, chez Swiss Life Banque Privée, vous avez une opinion positive sur cette valeur?
Oui, plutôt positive. Je partage l'avis de Renaud. C'est vrai que ces derniers temps, on avait plutôt des interrogations sur le titre. Donc pour les sujets réglementaires et politiques qui ont été évoqués, bon, c'est sûr que la publication aujourd'hui, elle est de qualité, avec un groupe qui maintient ses objectifs pour l'année. Donc ça, c'est positif. Les résultats ont été rappelés. C'est vrai qu'il y a une bonne dynamique sur les différentes zones géographiques et sur les différentes activités. Mais c'est vrai que l'horizon s'éclaircit quand même sur les sujets qui pesaient, donc notamment avec l'encadrement des commissions. Et ça, je pense que ça peut quand même donner un petit souffle d'air dans les prochaines semaines, puisque aujourd'hui on avait une réunion importante entre les distributeurs de titres de services et le ministre de la consommation, où il était justement sujet de discuter d'une réforme qui est prévue en septembre pour soulever justement ces interrogations. Et donc ça semble aller dans le bon sens d'après les notes d'analyse qu'on a eues récemment et des articles de presse qui sont parus ces dernières semaines. Donc positif, on recommence à être positif sur Edenred.
Romain Daubry, sur cette valeur, on est à 46,94 €, on progresse de 4,9%. D'un point de vue technique, quel est votre point de vue?
Effectivement, peut-être du mieux après un parcours lourdement baissier depuis quelques semaines. Le titre préserve un niveau de support situé entre 44,65 et 45,60, et il le préserve franchement puisqu'il le déborde aujourd'hui en hausse avec un gap haussier, donc peut-être la rupture d'une tendance baissière, et puis du volume. Reste que le plafond de verre à déborder pour Edenred, c'est 47,86, niveau sous lequel elle reste nettement baissière. Si on réussit à clôturer en hebdomadaire au-dessus de ce niveau-là, on peut réactiver la dynamique haussière avec une première résistance à 50,34, et dans ce cas-là, ensuite des extensions qui seraient situées entre 53,46 et 56,48 au mieux.
Parmi les entreprises qui ont également publié leur chiffre d'affaires, Danone a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 2,5% en raison de son retrait du marché russe. En revanche, à taux de change et à périmètre constant, le chiffre d'affaires est en progression de 4,1%. Et ce soir, le titre Danone termine sur une progression de quasiment 0,9%. 59,06 €. Qu'est-ce que ça donne techniquement, Romain?
Bien, c'est neutre entre 57,99 et 59,15. Encore une fois, cette réaction haussière qui est quand même très nettement invalidée, puisque le titre prenait plus de 3%, 3,38% au mieux dans la séance, ne termine en hausse que de 0,89%. On croyait à une invalidation d'un mouvement de consolidation, et puis on revient se caler donc entre 57,99 et 59,15. Tant qu'on est sous ces niveaux-là, et enfin dans cette borne-là et sous le niveau de 59,15, le risque d'accélération baissière reste possible. C'est, comme on le disait, un peu le même comportement qu'à LVMH. Si on déborde 59,15, on peut aller chercher 61,62, pourquoi pas 64,04. Le risque, en revanche, sous 57,99, c'est d'accélérer. Franchement, on n'a pas beaucoup de support avant 55,66, 53,94 ensuite. Donc un marché très neutre, encore une fois, et des résultats qui sont applaudis au début et qui sont un peu gommés ensuite. Ce n'est pas un comportement très, très franc pour l'instant.
Parmi les publications de ce jeudi, Française des Jeux, c'était publié hier soir après la clôture, mais le marché réagit ce matin. Le titre termine en baisse de 3,3%. Renaud Ramette, c'est une valeur que vous suivez?
Oui, Française des Jeux. Alors, on n'est pas présent. Pareil, on avait accompagné le dossier de l'IPO et puis on était sorti parce que sur des sujets de valorisation et de très bons parcours boursiers est venu sur les aspects de valorisation cette enquête Commission européenne. Là, on est dans un cadre de résultats assez correct mais qui vient un peu se télescoper avec une acquisition et des sujets réglementaires. En fait, il y a quand même toujours un peu un sujet de chape de plomb sur le dossier, puisque si la visibilité sur l'enquête de la Commission européenne pourrait aboutir assez prochainement, on parlait de septembre, la communication de la société est plutôt confiante à ce sujet-là, mais vient se rajouter dans le cadre de l'acquisition de Kindred, hein, leader sur le marché, qui est une récente acquisition de la société, une autre réglementation qui pourrait évoluer sur la réglementation des jeux, des casinos en ligne, etc. La société est également relativement confiante, puisque le gouvernement, en fait, a dit qu'il serait plutôt contre cette mesure, mais c'est en discussion. Donc voilà, finalement, on a un titre qui replonge un petit peu. On n'est pas pressé d'y retourner. Tant qu'il y aura ces chapes de plomb, on pense que ça peut masquer la visibilité, même si les fondamentaux de la société sont solides, sur des marchés quand même en croissance, et c'est très générateur de cash. Enfin, il y a un vrai moteur de rémunération à l'actionnaire, en termes avec un rendement des free cash flow et du dividende assez élevé. Mais pour nous, il faut un peu que ces nuages de visibilité s'améliorent pour revenir sur le dossier.
La valeur termine en baisse de 3% ce soir, 3,1 à la Bourse de Paris depuis le début de l'année. Elle est toujours en progression de 7%. Parmi les publications de ce jeudi, Sartorius, le fabricant allemand de fournitures pour les laboratoires. Le groupe a du mal à tourner la page de la crise sanitaire. Son chiffre d'affaires trimestriel est en baisse de 8%. Et déjà l'an dernier, le groupe était confronté à un ralentissement de son activité. Pierre-Louis Vermeer, quelle opinion vous avez sur cette valeur ?
Je suis neutre sur le dossier Sartorius. Je pense que c'est encore un peu tôt pour se repositionner sur cette société. Globalement, et pour contextualiser le sujet, vous l'avez rappelé, Sartorius fait face depuis maintenant un peu plus de 2 ans à un derating important de son titre en bourse, dans un contexte de demande plus faible de la part de ses clients, et puis d'un déstockage qui s'en est suivi après les années très porteuses après les années Covid. La publication du jour, elle déçoit, témoigne encore une fois de la faiblesse de l'activité en ce début d'année. Du côté des marges, il n'y a pas vraiment de sujet, avec une marge d'EBITDA qui ressort pas très loin de la guidance du groupe, 28,6% contre une guidance à 30%. Sur la dette nette, ça c'est plutôt amélioré, donc ça c'est positif aussi. En revanche, sur le chiffre d'affaires, c'est moins bon puisqu'il recule de 8%, donc ce qui est assez éloigné des objectifs pour 2024, qui vise une croissance qui est comprise entre +5 et +10%. Donc ça sous-entend quand même qu'on doit avoir une nette accélération des ventes courantes de cette année pour atteindre cette fourchette de croissance, et donc ça c'est un peu l'inconnu. Donc ce qui me pousse à être neutre compte tenu de tous ces éléments, c'est le fait que les ventes d'équipements sont toujours à la peine, et la tendance risque de ne pas s'améliorer significativement au deuxième trimestre, et on verra après pour le deuxième semestre, mais en tout cas au deuxième trimestre ça risque encore d'être un peu sous pression, et donc on risque d'avoir ce carnet de commandes sous pression, même si actuellement on est avec un book-to-bill supérieur à 1. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir une petite pression au niveau du carnet de commandes dans les mois à venir. Et cette problématique, elle n'est pas aidée par l'activité du groupe en Chine, qui est un marché important pour Sartorius et qui a présenté de très mauvais chiffres ce trimestre. Et à cause du manque d'investissement qu'on connaît depuis maintenant, malheureusement, plusieurs trimestres. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un manque de visibilité. Et puis, c'est un titre qui se paye quand même un peu cher en bourse aujourd'hui, un peu cher compte tenu du manque de visibilité qu'on a.
La valeur perd 15,2% ce soir à la clôture, 19% depuis le début de l'année et pratiquement 28% sur un an. Renaud Ramette, vous êtes également neutre sur la valeur chez Promépar.
Oui, on est neutre. Beaucoup d'éléments ont été décrits par Pierre-Louis. Je m'inscris à peu près en ligne. C'est juste peut-être noter, enfin, nous, ce qui nous ferait revenir à la neutralité, c'est peut-être la séance d'aujourd'hui. La réaction peut sembler sévère, mais pas oublier que c'est quand même aussi un titre volatile et puis qui a l'habitude parfois d'avoir des trimestres sur trimestres assez volatiles. Donc ça se matérialise. Voilà, peut-être réaction quand même un peu sévère du marché sur cette publication, mais en tout cas on n'était pas encore acheteur fondamentalement et on ne le reste pas encore sur ces niveaux.
Romain Daubry, avec une baisse de 15% aujourd'hui, ça représente 50 euros hein, sur le cours de l'action. J'imagine qu'on a cassé des seuils importants.
Oui, effectivement, on a pu donner un message assez négatif puisque le titre qui était baissier depuis janvier 2022, qui évoluait au sein d'un canal baissier, tentait depuis le mois de mars dernier de le déborder, d'en sortir par le haut en essayant de s'affranchir du niveau de la résistance majeure à 263,50. Alors effectivement, la baisse du jour avec un gap baissier, des volumes qui sont 4 ou 5 fois supérieurs à la moyenne des volumes récents et un mouvement de baisse fort font que effectivement le message reste très négatif. Reste qu'on a préservé un niveau de support qui est 204, au-delà duquel on termine un petit peu, 209,60 en clôture ce soir. Le risque sous 204, c'est d'aller chercher 176 et après on repart franchement à la baisse. Donc un mouvement à reconstruire et une tentative de sortie par le haut franchement avortée, qui n'est pas un bon signal graphiquement évidemment.
Renaud Ramet, votre valeur, celle que vous avez choisie aujourd'hui, c'est Exail Technologies. Pour quelle raison ?
Alors en fait, elle fait également office de commentaire sur la forte réaction du titre. Et d'un communiqué qui est tombé hier soir, un petit peu laconique, mais de notre côté, il n'y a pas raison d'en faire trois pages. Hein, c'est sur le gouvernement australien qui a informé Exail Technologies de l'abandon de l'appel d'offres concernant son programme de guerre des mines.
Donc c'est plutôt... On le signale, puisqu'on n'a pas dit, mais c'est une entreprise spécialisée dans la robotique civile et militaire.
Exactement, qui fabrique des systèmes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatiale et la photonique. C'est une valeur familiale. Hein. La famille Gorgé est présente à 44% du capital. Avec la baisse d'aujourd'hui, ça capitalise à peu près 350 millions d'euros. Donc c'est une forte réaction du marché. C'était à savoir si, alors c'est utile, c'est à savoir ce qui était dans les cours. Est-ce que ce contrat était pricé, pas pricé, du côté des brokers, puis ils étaient modestes. Mais en fait, on peut dire que oui, c'est une déception sur, en fait, les attentes 2024 et, entre guillemets, le pipe commercial, comme on dit. Quelques éléments quand même positifs. Bon, il n'est pas exclu, on va pas vraiment factoriser cet élément-là, mais qu'il puisse y avoir dans la relation d'affaires éventuellement des compensations, indemnisations, bon, c'est pas forcément évident. Mais pour nous, bon, ça remet pas en cause les chances de succès qu'a la société dans les autres appels d'offres. Et il y en a beaucoup actuellement. Donc, il y avait 10 navies au sein du monde, donc à moins 1, il en reste 9. Et finalement, à la lumière de cet accident, on comprend peut-être mieux la stratégie de l'entreprise. Moi, j'en avais vu fin mars, dont la stratégie est de répondre à tous les appels d'offres. Alors évidemment, c'est coûteux, parce que ça coûte de l'argent de répondre à des appels d'offres, ça pèse un peu sur la marge, il faut l'accepter, mais après on va se demander l'arbitrage, plutôt que, pourquoi pas ne cibler les appels d'offres les plus significatifs, les plus massifs, là où il y a le plus de chances. En quelque sorte, on a un peu la réponse aujourd'hui. C'est finalement, si on perd aussi Galgro, il ne reste plus rien. Donc la stratégie qui consiste à répondre à tous les appels d'offres semble à cette faveur-là plus pertinente. Et bon, la réaction, elle est aussi à mettre en lumière du parcours, qui était très surperformant depuis le début de l'année, et d'un discours du management qui confirme en fait une intensité commerciale inconnue depuis 20 ans. Alors là, ça prend un petit peu de plomb dans l'aile, mais on reste confiant sur le dossier, le fondamental, une société qu'on suit depuis très longtemps. C'est sûr qu'il y a un effet un peu brutal du passage de finaliste à, puisqu'ils étaient finalistes, finalement on annule la compétition. Donc voilà, cet élément fait du prince, c'est un petit peu les règles du jeu de tout positionnement sur des marchés liés par les gouvernements. Mais pour nous, il y a encore du positif à attendre sur la valeur.
19,1% de baisse aujourd'hui à Paris. Vous le disiez, un très beau parcours depuis le début de l'année. On est encore, malgré la baisse du jour, en progression d'un peu plus de 1% depuis le 1er janvier. On termine avec Planisware, qui a été introduit en bourse aujourd'hui à Paris, spécialiste des logiciels dédiés à la gestion de projets. Proposé à 16 euros par action, la valeur termine ce soir en progression de 25,6%. Le cofondateur et le président de l'entreprise sera l'invité d'Edwige Chevrillon à 18h15 sur notre antenne. Est-ce qu'un succès comme cette introduction en bourse, Renaud, ça peut relancer les IPO à la Bourse de Paris?
En tout cas, ça fait du bien. Parce que les IPO et dans la tech avaient plutôt tendance à... Enfin, il y a beaucoup de delisting. Voilà, c'est une information que tout le monde connaît. Donc, avoir des IPO de taille relativement significative, la post-IPO, on est à peu près plus d'1 milliard. Ça fait du bien, ça crée un engouement, c'est bon pour l'écosystème. C'est un élément pour les sociétés, on va dire là, de taille moyenne en l'occurrence. Donc oui, il est temps de refournir la cote de sociétés, des parcours, puisqu'on n'avait rien eu depuis quasiment 4 ans, pas tout à fait, avec OVH. Donc oui, ça fait du bien. Et puis voilà, la société. Bon, finalement, l'éducation financière, le placement s'est fait vite. L'éducation financière avait déjà été faite à l'automne. Donc voilà, c'est un bon exemple et on espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir.
Merci beaucoup à tous pour la synthèse et l'analyse de cette séance. Renaud Ramet, gérant chez Promépar Asset Management. Merci à Pierre-Louis Vermeer, gérant chez Swiss Life Banque Privée. Et bien sûr, Romain Daubry, marché dérivé et info d'expert qui nous accompagne depuis 16h30 cet après-midi.